Il reste donc beaucoup à découvrir pour établir dans le détail la généalogie humaine. Mais il faut reconnaître que la méthode du principe évolutif, trop simplifiée au début et maintenant détachée de toute préoccupation métaphysique, semble avoir fait ses preuves sur ce terrain.
Bon, il y a énormément de prêtres préhistoriens. Donc, il y a l'abbé Breuil, il y a son collègue de séminaire, l'abbé Boussoni. Bon, là, ils sont trois, les Boussoni, mais il y en a surtout deux qui sont connus, Jean et Amédée. J'ai oublié le prénom du troisième. Sinon, il y a d'autres abbés, l'abbé Bourgeois, qui lui travaille dans les années 1860. Alors, lui, il fait encore mieux que Breuil ou Boussoni, puisqu'il carrément, il est sur le terrain de l'homme tertiaire. Donc il est véritablement, c'est un abbé qui est véritablement dans la recherche, de, même pas de l'homme préhistorique, du précurseur de l'homme. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'abbé Bourgeois qui, alors il est dans le Loir-et-Cher ou le Cher, enfin dans la région de Tenay, et il fournit les éléments à partir desquels, Gabriel de Mortillet, positiviste, matérialiste, anticlérical, va construire sa théorie de l'homme tertiaire. Donc on est véritablement dans, en gros... On attendait tout le monde sauf un abbé sur ce terrain-là, quoi. Et donc voilà, les prêtres préhistoriens sont effectivement assez nombreux. Alors il faudrait s'intéresser aux motivations de chacun, mais en tout cas pour celui qu'on connaît le mieux, qui est l'abbé Breuil, on le connaît très bien parce que l'abbé Breuil, en fait, son œuvre a fait une œuvre qui est sa vie, c'est-à-dire que sa vie et son œuvre sont intimement liées. Et donc il a son autobiographie, non publiée, mais qui a eu plusieurs manuscrits et exemplaires de manuscrits ou dactylographiés. C'est plusieurs milliers de pages dans lesquelles il raconte des tas de choses intéressantes et dans lesquelles justement il justifie toute son action. Et pour Breuil, il y a des choses importantes. Par exemple, quand Breuil entre au séminaire, il est dans l'idée justement d'une création biblique, de choses très... Donc quand il entre au séminaire, c'est un laïc, c'est un jeune, voilà, un jeune futur prêtre, et il a en tête des choses très, très rigoureuses, très, en gros il a en tête la Bible et les origines bibliques de l'homme, etc. Et c'est au séminaire que son professeur d'histoire naturelle, l'abbé Guibert, va en fait lui ouvrir les horizons. C'est-à-dire que c'est au séminaire que Breuil, le jeune élève, va entendre parler d'évolution pour la première fois de sa vie. Donc, le séminaire de Saint-Sulpice, c'est un véritable repère de modernistes. Donc, on est dans une certaine frange du milieu ecclésiastique. On est justement chez les gens qui ne sont pas pour ce qu'on appelle le concordisme, c'est-à-dire que la Bible ne doit pas concorder avec l'histoire naturelle. Mais pour les modernistes, la Bible est une expression de la foi, symbolique de la foi, et la science, elle, fait son chemin à part. Donc les deux n'ont pas à concorder, n'ont pas à coïncider. Donc on est effectivement dans un courant pas particulier, parce que le courant moderniste, c'est une bonne partie de l'Église, mais en tout cas c'est un des courants donc, de l'Église catholique. Et donc Breuil va entendre parler d'évolution pour la première fois au séminaire. C'est l'abbé Jean Guibert qui va le pousser à faire de la préhistoire, alors que lui s'intéressait essentiellement à l'entomologie et à la botanique. Et donc, voilà, c'est son abbé, c'est son professeur d'histoire naturelle qui lui dit « Mais vous devriez plutôt vous intéresser à la préhistoire, il doit y avoir des choses à faire là-dedans. » Et par ailleurs, dans l'ensemble des textes écrits dans lesquels Breuil se parle de lui, de sa vocation, etc. En fait, non seulement donc il n'y a pas opposition, puisqu'il est dans l'idée qu'il y a la Bible, la foi, qui est en gros la foi et la science sont des domaines différents. Et c'est des domaines différents, mais qui peuvent quand même se rejoindre, parce que finalement. L'abbé Breuil, c'est un curé, alors il disait qu'il était lui-même du diocèse des cavernes, c'est donc un curé qui, bon, il a dit la messe quand il n'avait à dire, mais en tout cas il n'avait pas de paroisse, toute son activité c'était une activité de scientifique, mais de la même façon que un prêtre qui a une paroisse et qui, on va dire, consacre sa vie à Dieu, à travers l'activité qu'il a dans sa paroisse, auprès des pauvres ou des moins pauvres, mais dans l'activité de la vie religieuse et le développement de la foi et de ses ouailles, Breuil, lui, dans son esprit, c'est son œuvre scientifique qui est, en gros, à travers son œuvre scientifique, qu'il célèbre la grandeur du Créateur. Donc, pour lui, son œuvre scientifique, c'est l'hommage qu'il rend au Créateur. Alors, il est donc totalement libre en tant que scientifique, parce que la science et la foi sont différentes, ont chacun leur domaine, mais en tant qu'homme et en tant qu'homme d'Église, il est parfaitement dans le cadre de son activité, parce que chaque fois, je caricature, mais chaque fois qu'il donne une conférence, chaque fois qu'il publie un livre, chaque fois qu'il fait une découverte, qu'il fait des recherches, qu'il travaille, et Dieu sait si c'est un énorme travailleur, il travaille presque jour et nuit en permanence, il est chaque fois dans la célébration de la création, enfin de la création. La création, sauf qu'elle est évolutionniste, mais en tout cas, elle est dans la célébration du monde et de l'œuvre de Dieu. Donc il est pour lui parfaitement dans l'activité et d'un homme d'Église et d'un chrétien, de façon générale, d'un catholique. Et donc il n'y a absolument pas contradiction. Tout ça est parfaitement, parfaitement bien cadré. Et c'est la démarche de... Alors là, c'est les mots même de Breuil, c'est son idée, c'est son fonctionnement, mais l'ensemble des prêtres ou même des catholiques préhistoriens, parce qu'il y a d'autres, des préhistoriens importants, on pense au comte Bégouin, par exemple, qui est un proche de Breuil, mais on a également la famille Arcelin, donc le découvreur du site de Solutré et le premier fouilleur de Solutré, qui sont véritablement des catholiques fervents, et qui n'ont aucun problème à s'intéresser à la préhistoire, parce que c'est aussi une façon d'étudier le monde créé, et en tout cas le monde tel que la divinité nous l'a laissé, quelle que soit la façon dont ce monde-là a lui-même été créé, ou est lui-même arrivé dans l'état où il est actuellement. Voilà, c'est deux questions différentes. Donc il n'y a pas de véritable... En fait, cet antagonisme entre la préhistoire et la religion, c'est en grande partie aussi un héritage du XIXe siècle, de cette école positiviste matérialiste, qui, toujours là également aussi, d'un point de vue tactique, veut une fois de plus affirmer sa modernité, et sur ce terrain-là, elle est dans l'idée de... Voilà, nous, on est une force de progrès, face à l'Église qui est une force rétrograde. Donc ça, c'est véritablement un discours matérialiste et positiviste de la fin du XIXe siècle. C'est le discours d'un Mortier, c'est le discours de gens comme ça, de toute l'école matérialiste. Mais c'est en partie vrai aussi, parce que il y a des moments où... là on pensera à un autre familier on revient au XXe siècle, un autre familier de Breuil qui est le père Théard de Chardin. Voilà, lui, il a eu des problèmes quand même. Théard de Chardin, on lui a demandé gentiment d'aller exercer son ministère en Chine. Et bon, mais c'est bien, il a défouillé, il a trouvé l'homme de Pékin, il a aussi progressé. Mais alors après, il y a des cas différents. Donc Breuil, c'est un prêtre, il n'est pas dans une congrégation, il est, on dirait, un peu électron libre, il est rattaché à aucun... Si sur le papier, il est rattaché au diocèse de Soissons, mais il n'a pas de ministère, il n'a pas de cure, il n'a pas de voilà, il n'a pas d'activité de prêtre, en fait. Théard de Chardin, c'est un jésuite, il est dans une congrégation, il a un rôle, déjà, les cadres institutionnels sont différents, et puis ensuite, donc Breuil a cette articulation entre la foi et la science, où finalement, toute son activité scientifique est offerte en tant que gage de foi, mais n'interfère pas avec les deux. Quand on lit un article de Breuil, il n'y a absolument rien, c'est difficile de trouver quelque chose de moins spirituel. C'est véritablement très technique, on est vraiment dans la préhistoire pure et dure. Théard de Chardin, donc non seulement il est dans un cadre différent, mais en plus, il a une visée philosophique, et son travail de paléontologue et de préhistorien, il va l'intégrer à une compréhension globale d'une philosophie générale dans laquelle la paléontologie, l'évolution, la préhistoire vient trouver sa place. Et à partir de ce moment-là, il est dans le domaine de la philosophie. Il n'y a plus cette étanchéité entre les deux, entre la science et la foi, la science et la philosophie religieuse. Et là, du coup, il va entrer, lui, en opposition avec le dogme, avec la parole, on va dire, le dogme catholique. Et donc là, lui aura des problèmes, effectivement, et avec sa hiérarchie, et avec bon, ce qu'on appelle Rome, de façon générale, et avec les doctrines mêmes. Or que Breuil, en plus, lui, il est absolument pas. Même quand il interprète l'art pariétal en allant vers des interprétations de type justement religieux, religion primitive, bah, c'est pas, ça intègre pas. Donc cet élément-là n'est pas intégré à une histoire, par exemple, sur les origines de la chrétienté, ce qu'on aurait pu imaginer. Enfin, ça aurait été absurde, mais pourquoi pas. Voilà, lui, il est dans cette étude-là. Il y a des comparaisons entre les grottes ornées et l'idée d'un sanctuaire. Sanctuaire chrétien, je veux dire, quand Altamira ou Lascaux sont appelés chapelle Sixtine de la préhistoire, on est véritablement, bon, c'est dans le langage courant, mais on est dans la collusion entre ce qu'est le monument sacré pour un catholique du début du XXe siècle et la grotte préhistorique. On est véritablement là-dedans, quoi. Mais à part, il n'y a pas quand même, mais Breuil n'intègre quand même pas ces idées théoriques sur l'art pariétal à une conception ou à une histoire générale de l'homme et de la religion qui est la sienne, la religion catholique. Donc du coup, il peut bien raconter ce qu'il veut, ça n'interfère pas avec la doctrine catholique. Donc il est tranquille, quoi.
Ses œuvres, pour la plupart, se cachant au plus profond des cavernes où l'homme n'habitait pas, et leur existence montre clairement qu'elles ont été des lieux sacrés, sièges de cérémonies rituelles destinées à assurer la multiplication du gibier et le bon succès des chasses. Des figures semi-humaines que l'on y trouve semblent incarner des êtres surnaturels qui présidaient à la nature, et uniformité de leur développement sur de vastes espaces, comme la presque constante perfection de ses œuvres, témoigne qu'elles ont été exécutées par une caste d'artistes et des prêtres spécialisés obéissant à une autorité spirituelle. Les gens de l'âge du Rennes n'étaient donc pas les grossiers primitifs que l'on croyait. Les plus anciens, des récents hommes, avaient la même intelligence que nous, se posaient la même question sur les choses que l'on ne voit pas et tentaient de les résoudre avec les moyens dont ils osaient. Nous trouvons cela dans le soin dont ils entouraient leurs morts, dans la beauté créée par eux au service de leurs croyances à des forces cachées dirigeant la nature, et dans l'ingéniosité qu'ils ont développée à créer des outillages indispensables à la vie matérielle. Nous trouvons, dis-je, en tout cela, une raison de sympathiser avec eux. Peut-être, mis à leur place, n'aurions-nous pas pu si bien faire. Ce sont bien nos propres ancêtres dont nous pouvons être fiers.